Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Baben Pongo Masimango.
Madame, monsieur, bonjour. À la une, cette alerte sanitaire au Nord Kivu, près de 1000 décès liés au VIH-Sida dans le seul territoire de Rutshuru en 2025. Ceci ressort d'une enquête de l'ONG Action pour la protection civile et le développement. Elle liste là une défaillance dans la prévention et plaide pour plus de sensibilisation et une meilleure prise en charge. Au Kasaï Oriental, plusieurs chantiers de construction et de modernisation de l'aéroport de Bipemba sont presque à terme. Son directeur parle de quelques préalables qui restent à accomplir avant l'exploitation internationale de cet aéroport. Vous suivez Romain Chinyama. Dialogue en congolais revenu hier sur l'attaque de l'aéroport de Bamboka à Kisangani dimanche par des drones kamikazes. Attaque que le gouvernement provincial de la Tchopo attribue à l'armée rwandaise et ses alliés de la FCM-23. Dans ce journal, quelques réactions des intervenants. Bienvenue à cette édition du journal qui commence par cette nouvelle. Les États-Unis imposent des sanctions aux forces de défense rwandaises et à 4 de leurs officiers supérieurs pour leur soutien opérationnel direct au M23 et à ses alliés dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort d'un communiqué du gouvernement américain. Le communiqué précise que quelques jours seulement après la signature le 4 décembre 2025 par le président Trump de la déclaration conjointe historique des accords de Washington pour la paix et la prospérité avec le président congolais Tshisekedi et le président rwandais Kagame, des combattants du M23 soutenus par le Rwanda se sont emparés de la ville d'Uvira en violation flagrante des accords de Washington. Le document note aussi que le M23, entité sanctionnée par les États-Unis et l'ONU, est responsable d'horribles violations des droits humains, notamment des exécutions sommaires et des violences contre des civils, y compris des femmes et des enfants. Ainsi, les États-Unis réaffirment leur soutien indéfectible à la paix et à la stabilité dans l'est de la RDC et dans l'ensemble de la région, conclut l'État américain. Nous allons y revenir. Nous commençons ce journal avec cette alerte sanitaire au Nord Kivu. Près de 1000 décès liés au VIH-Sida enregistrés dans le seul territoire de Rutshuru en 2025. L'organisation Action pour la protection civile et le développement qui a mené l'enquête pointe du doigt une défaillance majeure dans la prévention communautaire. L'organisation recommande aujourd'hui une intensification urgente de la sensibilisation et une prise en charge adéquate pour éviter une catastrophe plus grande encore cette année. Le point avec Rosalie Zerati.
Selon les secrétaires exécutifs de l'organisation Action pour la protection civile et le développement, c'est le nombre élevé des cas de décès liés au VIH dans plusieurs aires de santé de Rutshuru qui a motivé ces monitorings. Innocent Ouissabé explique qu'en 7 mois, la courbe des décès liés au VIH a grimpé jusqu'à atteindre un niveau qui, je cite, fait peur.
Nos enquêtes menées dans les zones de santé de Rwanguba, Rutshuru, Binza, Bukombo et Birambizo ont révélé au moins 1000 cas de décès liés au VIH-Sida entre février et août 2025. Les cas sont clairs, faible accès au dépistage et nous avons aussi les violences sexuelles faites aux femmes et filles, surtout dans un contexte de conflit armé. Et nous avons également coupure de certaines aides humanitaires, aggravant la vulnérabilité des malades.
Une nouvelle enquête réalisée la semaine dernière par cette organisation dans les aires de santé des Kako, Kalengera, Rubare et Ruseke montre que les méthodes de prévention restent un mystère pour les communautés locales, d'où cet appel à une action urgente pour sauver les vies dans cette zone. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
L'actualité à Kinshasa cite aussi la circulation de médicaments contrefaits ou de qualité douteuse qui inquiète sérieusement les autorités sanitaires. Selon le gouvernement provincial, ces produits seraient responsables d'une proportion alarmante de décès dans la capitale, une situation qualifiée de grave et qui met directement en danger la vie des milliers d'habitants et appelle à des mesures urgentes ainsi qu'à la vigilance. Le ministre provincial de la Santé, Patricien Gongo, explique au micro de Nancy Ntambo.
Dans la mesure, ça veut dire que vous savez qu'il y a une autorité de régulation qui est la COREP, qui est déjà en train d'y travailler. Déjà, nous, à notre niveau, envoyer des inspecteurs sur terrain pour dénicher les gens qui font ces réseaux-là. J'appelle les Quinoises et les Quinois à la vigilance face aux produits pharmaceutiques. Le produit pharmaceutique, ils doivent être rigoureux. De la même manière qu'ils choisissent leurs médecins, ça doit être la même manière qu'ils doivent choisir des pharmacies qu'ils entrent pour s'en procurer des médicaments. Et puis, le médicament qui se vendent dans même des sols que nous voyons dans des pharmacies qui ne sont pas viables, qui puissent être beaucoup plus regardants, parce que accéder à un faux médicament, ça tue plus que même la maladie elle-même. Donc il faut avoir accès à des médicaments de bonne qualité pour qu'on puisse espérer guérir. Donc qu'ils puissent être vigilants et qu'ils dénoncent toute contrefaçon qu'ils auront à constater dans leur quartier, dans leur marché, dans leurs avenues, pour que ça puisse permettre à l'État de traquer tous ces réseaux-là.
Contrôle technique des véhicules à Kinshasa en Corbière avec un cadavre à son bord a été arrêté et ses pneus ont été dégonflés hier lundi par des agents de contrôle technique, explique le témoignage sur place. Les faits se sont déroulés précisément entre les arrêts TP et Iveco sur la route de poids lourd à Limité. Une foule de curieux très choqués est venue sur place découvrir le corbillard de marque Mercedes et le corps qui est transporté. Pour les personnes rencontrées sur le lieu, les pneus du corbillard ont été dégonflés par ses contrôleurs car ce véhicule n'avait pas de documents techniques. Entre-temps, le corps gisait toujours dans un cercueil dans le véhicule. Écoutez la réaction de certains passants qui étaient sur place et note pour la plupart que certains véhicules comme les ambulances, corbillards ou autres véhicules privés transportant des malades ne doivent pas subir ce type de contrôle et optent donc pour une formation de ces agents. Suivez un de ces témoins dans ces propos recueillis par Devin Bunga.
C'est ça le nuit, c'est à 10h, 11h comme ça.
L'incident s'est produit entre 10h et 11h. Un corbillard transportant une dépouille a été la cible d'un contrôle routier. Alors que le conducteur tentait de poursuivre sa route, les agents de contrôle l'ont brusquement interpellé en faisant usage d'une herse, endommageant ainsi deux pneus du véhicule funéraire. Si la légitimité des contrôles de l'État n'est pas remise en cause, la vérification des documents de bord étant un droit régalien, la méthode employée ici choque par son manque de professionnalisme. Par respect pour le mort et la douleur des familles, un convoi funéraire ne devrait jamais faire l'objet d'une telle violence. En conséquence, nous demandons au ministère provincial des Transports de revoir urgentement la formation des agents déployés sur les grandes artères de la capitale.
Jusqu'à nous n'avons pas pu avoir les responsables de transport du côté du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa afin d'avoir leur réaction. Direction le Kasaï oriental où plusieurs travaux de différents chantiers de construction et de modernisation de l'aéroport de Bipemba sont presque terminés, annonce vendredi dernier du commandant de cet aéroport au gouverneur de province. C'était lors d'une visite organisée par le gouvernement provincial. D'après le commandant de cet aéroport, les travaux de modernisation prévus pour 24 mois sont allés jusqu'à la 6e année suite aux difficultés d'acheminement de matériel. Romain Chinyama signale cependant que quelques préalables restent à accomplir avant l'exploitation internationale de cette infrastructure aéroportuaire. Il est au micro des stands de la FINA.
La chaussée aéronautique, on entend tarmac et les pistes. La piste était déjà refaite et est en utilisation depuis pratiquement déjà, je crois, 3-4 mois. Et jusque-là, donc, il nous reste à installer maintenant les équipements d'aide à l'atterrissage, qu'on appelle les ILS, qui seront installés incessamment. Donc, il y a certains préalables, n'est-ce pas, mais bon, ils sont en train de s'y mettre. Mais peu du moins pour se retrouver dans PPCA 2 sont actuellement à ce stade. On dirait au-delà de 90%. La piste est faite, c'est vrai, mais il faudrait assez qu'on ait les instruments, n'est-ce pas, d'aide à l'atterrissage, instruments de landing system, qui sont des équipements automatiques qui aident les pilotes à se poser, même par mauvais temps, jusqu'au sol. Et c'est ce qui donne la sûreté, la sécurité, n'est-ce pas, de la navigation aérienne. Et on ne peut pas se permettre, n'est-ce pas, de lancer les vols internationaux sans que tous ces préalables ne soient remplis. Nous sommes en travaux de finissage actuellement.
Province du Haut-Katanga à présent avec l'installation le week-end à Lubumbashi de la direction provinciale de la DRC Gold Trading SA, une entreprise du portefeuille de l'État congolais spécialisée dans la lutte contre la fraude et la contrebande dans la filière de l'or artisanal et à petite échelle. Dans un communiqué de presse, l'organisation de la société civile Kasmia, qui œuvre dans le secteur minier, considère que l'implantation de cette succursale dans le Haut-Katanga est une occasion pour le gouvernement de reprendre le contrôle d'un secteur longtemps marqué par l'informel. Avec Paula Munanga.
L'organisation Kasmia GASBL considère que l'implantation de la direction provinciale de la DRC Gold Trading SA est un engagement affiché par le gouvernement à poursuivre son action d'appropriation de ses ressources naturelles. Cette organisation exhorte l'État congolais à clarifier et renforcer sa politique dans le secteur de l'or artisanal en mettant l'accent sur la traçabilité et la lutte contre la fraude, notamment aux postes frontaliers stratégiques comme Kasumbalesa, Mokambo, Sakanya, Dilolo ou encore Kasumbalesa. Kasenga. Malgré l'implantation de la DRC Gold SA dans le Haut-Katanga, Kasmia estime que les défis structurels demeurent majeurs. Elle décrit les conditions d'exploitation dangereuses de l'or, des pratiques illégales persistantes et une dégradation environnementale préoccupante. Le communiqué dénonce notamment la présence d'acheteurs étrangers sur les sites miniers, l'installation illégale d'unités d'extraction et de traitement ainsi que l'exploitation de l'or dans les périmètres appartenant à des entreprises telles que Kisenge Manganèse, Cominière ou encore Kibali Gold Mining. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Caritas Congo a décidé de redynamiser son réseau national à travers la RDC dans ce contexte de crise financière mondiale qui fragilise les organisations humanitaires. C'est dans cette optique qu'elle organise un atelier du 2 au 6 février à Kinshasa, une formation axée sur le renforcement des capacités de ses 48 coordonnateurs diocésains. Selon son secrétaire exécutif, cette session vise à promouvoir l'éthique, la bonne gouvernance financière et un style de management amélioré au sein du réseau. Des précisions avec Blaise Ntongala.
Dans ce contexte humanitaire particulier, marqué par des coupes budgétaires, Caritas Congo souhaite à tout prix résister et garantir la continuité de ses services dans tous les pays. Les chargés des communications de l'organisation présentent cet atelier comme une démarche de renforcement stratégique et transformationnel adaptée à une période de transition et de défis renouvelés. Il explique que cette formation explore de nouvelles approches basées sur les ressources locales, la mobilisation du capital social et un accompagnement communautaire renforcé.
Chaque échange que nous allons vivre doit être transformé en actions concrètes au service des populations que nous accompagnons.
Pour sa part, le secrétaire exécutif de Caritas Congo souligne que la durabilité des actions de l'organisation ne peut être garantie sans un leadership transformateur et orienté vers les résultats. L'abbé Edouard Makimba.
Cette mission s'inscrit pleinement dans la matérialisation du cinquième axe de notre vision, consacré à la redynamisation du réseau national Caritas et au renforcement institutionnel de ses membres.
Ces prélats catholiques souhaitent par ailleurs façonner des leaders efficaces, capables d'anticiper les risques et de promouvoir une culture des responsabilités et des performances.
Autre formation, au moins 580 agents et cadres de l'Inspection générale des finances sont à l'École du savoir. Ils bénéficient de plusieurs lundis et d'une série de formations continues à l'École nationale d'administration ici à Kinshasa. L'objectif de cette session de formation, non seulement renforcer leurs compétences, mais aussi leur inculquer un sens éthique renforcé dans l'exercice de leurs fonctions. Le directeur général de l'ENA assure pour sa part que cette formation entend consolider les capacités de l'IGF, considéré comme le chien de garde des deniers publics en République démocratique du Congo. Explication avec vous, Blaise Chindani Kambala.
Cette session de plus de deux mois s'inscrit dans le cadre des formations continues destinées aux agents et cadres de l'État congolais. Elle portera sur plusieurs thématiques, notamment la connaissance du statut régissant les agents et fonctionnaires de services publics de l'État. Le chef des services de l'Inspection générale des finances juge nécessaire ce type de formation pour améliorer la performance de l'administration publique. Christophe Bitassimoin.
Et après ici, vous irez encore à l'École nationale des finances. Ceux qui sont à l'École nationale des finances viendront aussi ici. Ici, pour suivre la même formation que vous, ça va désormais s'étaler comme ça sur toutes les années. Donc, c'est une condition sine qua non pour que l'Inspection générale des finances puisse être cet organe qui porte l'espoir de tout un peuple sur lequel le gouvernement compte pour redresser les finances publiques du pays.
De son côté, le directeur général de l'École nationale d'administration s'est dit heureux de la confiance que lui accorde l'IGF. Il promet de garantir aux participants une formation de qualité au bénéfice du bon fonctionnement de l'État congolais.
Au terme de cette formation, que les cadres qui auront suivi ces différents modules sont un peu plus motivés. Par ailleurs, ça va participer, nous n'en doutons pas, à renforcer la cohésion. C'est aussi un levier sur lequel, je suis convaincu, l'IGF chef de service s'appuie
dans la matérialisation de son plan stratégique.
L'ENA et l'IGF avaient signé en décembre dernier un protocole d'accord pour la mise en œuvre de cet exercice interne.
Retour au Nord Kivu avec ce cri d'alarme du réseau pour les droits de l'homme face aux multiples abus attribués à certains groupes armés sur les camps de Wazalendo dans la ville de Butembo et ses environs. L'organisation basée dans la ville dénonce une série de graves violations des droits humains allant des arrestations et détentions arbitraires aux tracasseries et violences contre des civils. Son coordonnateur Muindo Wasivinua appelle le gouvernement à tout mettre en œuvre pour garantir le respect des droits humains. Il est ici au micro du Martial Papi Mukeba.
Les rédos constatent la délinquance de certains éléments ouazalendou dans la vie de Boutembo et Aviro, des abus et des violations des droits des hommes, des cas de meurtre, des menaces de mort, des arrestations et détentions arbitraires, la création des barrières et taxes illégales, des cas de violences sexuelles, parfois des affrontements entre eux qui créent beaucoup de problèmes dans la communauté. Les rédos regrettent aussi l'attitude de certains civils qui préfèrent saisir les groupes armés au détriment des instances judiciaires quand ils ont des différends, mais aussi les silences ou soit les lenteurs ou les retards des services de sécurité pour intervenir en cas de dérapage constaté pendant les agissements de certains éléments ouazalendou. Recommande aux autorités étatiques d'instruire et former ses partenaires ouazalendou sur les droits humains et les droits internationaux humanitaires. Aux populations civiles de cesser à saisir l'ouazalendou.
Nous n'avons pas pu obtenir jusque-là la réaction des autorités.
Actualité internationale.
Au Soudan du Sud, des dizaines de civils ont été tués dimanche dans des violences qui ont éclaté dans le nord du Soudan du Sud, selon la mission de l'ONU sur place, ce que rapporte africanews.fr. Ces affrontements ont eu lieu à Abyenon lorsque des jeunes hommes armés non identifiés ont attaqué le siège du comté d'Abyenon situé près de la frontière avec le Soudan, blessant 23 personnes. La MINUS note avec regret la disparition de dizaines de civils et de certains responsables locaux dans les combats. Ces dernières semaines, la violence s'est intensifiée dans le pays à la suite de l'échec d'un accord de partage du pouvoir entre les généraux rivaux Salva Kiir et Riek Machar. L'ONU exhorte toutes les parties concernées à cesser sans délai les hostilités et engager un dialogue constructif pour répondre à leurs griefs.
L'invité.
L'aéroport international de Bamboka à Kisangani a été de nouveau attaqué le dimanche au 1er mars par des drones kamikazes chargés de sous-munitions. Dans un communiqué, le gouvernement provincial de la Tchopo attribue ses attaques à l'armée rwandaise et aux rebelles de l'AFC-M23. Cette actualité a fait l'objet des échanges entre des intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais et Irlandais. On les écoute au micro de Guy Maté.
Joseph Kongolo, vous êtes analyste politique et coordonnateur du bureau d'études, d'analyse et d'accompagnement en gouvernance politique et leadership. Quelle est votre analyse de cette nouvelle attaque de l'aéroport international de Bamboka à Kisangani?
Bien, merci beaucoup. Il faut d'emblée, d'entrée des jeux, dire que nous sommes dans une guerre sauvage. Et une guerre sauvage, c'est une guerre sans règles, où on dirige les drones vers des objectifs civils. L'aéroport de Bamboka, et d'ailleurs le gouverneur l'a précisé, c'était au moment où, n'est-ce pas, la compagnie CAA s'apprêtait, n'est-ce pas, à atterrir. Évidemment, on sait dire que peut-être que ces drones visaient, n'est-ce pas, l'atterrissage de l'avion CAA. Et vite, ça m'a fait penser à un cas qui s'est produit pratiquement ici en République démocratique du Congo, au moment de l'attaque, n'est-ce pas, encore d'une rébellion pro-rwandaise, qui avait causé d'ailleurs mort d'homme à l'occasion. Ils avaient visé pratiquement un avion qui atterrissait. Donc, on est en train de voir les choses revenir, ce sont les mêmes stratégies, la manière de tuer, la manière de faire. Tout ça relève de ce que j'appelle une guerre sauvage, parce que une guerre moderne, c'est une guerre qui est régulée. Il y a des lois pour faire la guerre, il y a des lois. On ne peut pas viser des objectifs civils, par exemple, des écoles, des civils, des objectifs civils. Une autre lecture nous montre que, depuis un certain temps, le rapport de force sur le terrain semble jouer en défaveur, n'est-ce pas, du M23 AFC. Et en désespoir de cause, ils sont en train de viser, n'est-ce pas, les objectifs civils, peut-être question de faire mal. Mais je crois que tout cela démontre assez suffisamment qu'on a perdu la raison, les objectifs de cette guerre, et on a déliré un tout petit peu. Je crois qu'il faut se ressaisir et faire la guerre dans les normes et avoir des objectifs un peu plus nobles dans cette guerre. Nous sommes en état moderne, nous ne sommes pas à une époque du Moyen-Âge.
Alphonse Baindo, vous êtes professeur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani Unikis. On se rappelle les condamnations qui ont suivi les premières attaques de cet aéroport. Certaines institutions, notamment l'Union africaine, avaient condamné avec la plus grande fermeté ces attaques. À votre avis, pourquoi ces condamnations n'ont pas suffi pour dissuader l'AFC-M23 et les Rwandais?
Bon, alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, c'est qu'entre-temps, il y a eu des incidents graves. Et parmi ces incidents, il y a d'abord la mort d'un des leaders de l'AFC-M23, en l'occurrence Willy Ngoma, et qui a été abattu par une attaque de drone, qui est imputé au FRDC. Et ce n'est pas le premier cadre important de ce mouvement à être abattu par des drones qui sont donc attribués au FRDC. Alors, pour le Rwanda, il faut faire quelque chose. Parce que si le Rwanda ne fait rien pour les gens qui les suivent dans ces aventures en RDC, ça pourrait décourager les gens à rejoindre le Rwanda aujourd'hui et demain dans ces aventures en RDC, puisqu'ils verraient qu'ils ne sont pas super protégés quand ils sont avec le Rwanda. Et il faut craindre que ça ne soit que le début. Le Rwanda pourrait être tenté de faire vraiment quelque chose de très fort, parce que pour eux, il s'agit d'un leadership de Kagame pour montrer que ceux qui sont avec moi sont protégés. Deuxièmement, il y a une autre raison qui me semble fondamentale, c'est qu'en ce moment, toute la communauté internationale est préoccupée par ce qui se passe au Moyen-Orient avec la guerre qui est entachée là-bas. Tout le monde est concentré là-bas. Donc, on peut reprendre les attaques sur Kisangani et il y aura une distraction et les gens ne vont pas suivre. On va oublier Kisangani, c'est rien sur le échiquier mondial quand on regarde les enjeux qu'il y a de l'autre côté.
Bob Kabamba, vous êtes politologue et professeur à l'Université de Liège en Belgique. Les recours aux drones changent la manière de combattre dans cette guerre. Qu'est-ce qu'on peut redouter dans les jours à venir si cette escalade ne prend pas fin, professeur Bob Kabamba?
C'est assez simple, en fait. L'escalade ne va pas prendre fin dans le contexte avec lequel nous nous retrouvons. C'est-à-dire que toutes les tentatives de résolution échouées doivent, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, mais c'est le M23 qui est représenté avec l'AFC qui sont représentés aussi bien militairement que politiquement. On connaît les résultats. Washington, nous connaissons les résultats. Luanda, on connaît les résultats. Lomé, on connaît les résultats. Et donc, il reste juste une chose, c'est-à-dire, comme on le sait, c'est l'option militaire. Et l'option militaire dans l'objectif de pouvoir arriver à inverser les rapports de force. Malheureusement, dans cette stratégie-là, c'est la population civile qui est victime, parce qu'on n'a pas toujours la visibilité sur tout ce qui est en train de se passer dans toute une série de zones de conflit, mais c'est la population qui est la première victime. Donc malheureusement, dans le contexte actuel, on voit bien que ça va être encore l'option militaire qui va être très privilégiée dans l'objectif de pouvoir faire inverser les rapports de force sur le terrain.
Vous pouvez continuer à suivre l'émission Dialogue entre Congolais sur www.radiocapi.net et sur toutes les plateformes numériques de Radio Capi, notamment YouTube, X et Facebook. Voilà qui met fin à ce journal préparé par Lievin Bingami, son nom par Dudu Nyangasa. Merci de votre attention. Excellente journée. Sachez que l'équipe de Radio Capi est là justement pour vous accompagner.